Rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Rendez-vous de midi, une émission réalisée dans le sillage de la revue La Pensée de Midi. Alors aujourd'hui, musique, littérature, débat d'idées, on parlera d'abord de littérature avec au sommaire deux rendez-vous autour du dernier livre de Jean-Marie Le Clézio qui vient d'avoir le prix Nobel, son livre « Ritournelle de la faim » aux éditions Gallimard et autour d'une actualité George Orwell. Alors, séquence littéraire, à l'occasion d'abord du prix Nobel qui a été donné à Jean-Marie Le Clézio. Tout le monde connaît la force et de l'écriture de Le Clézio, de son premier grand livre, Le procès verbal, suivi par tant d'autres, notamment Désert, Étoile errante, Onitsa et bien d'autres. Et c'est vrai que depuis quelques années, un certain nombre de critiques littéraires ne suivaient plus le travail de Le Clézio. Un certain nombre de lecteurs s'en étaient détournés, et moi le premier, comme si il n'y avait plus de surprise dans les livres de Le Clézio. Et c'est un peu triste de ne pas prêter attention à un écrivain aussi immense que Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui vient donc de sortir ce nouveau livre, Ritournelle de la faim, qui est un petit joyau, comme on n'en écrit plus, peut-être, ou alors comme seul Patrick Modiano arrive encore à le faire. Ritournelle de la faim est un livre, au fond, sur les années 30, sur sa famille venue des îles Maurice, sur Paris à cette époque, sur ce milieu un peu désabusé. Et donc Le Clézio, avec un art incroyable du récit, nous entraîne dans cette histoire familiale et nous fait percevoir toutes les contradictions de cette époque, les débats d'idées, la mise en scène et en avant de la violence et de la haine qui se dessinent, et à travers la figure de Ethel, il raconte, ça pourrait être la figure de sa mère, il raconte la déchéance progressive de cette famille qui, richement dotée et vivant de ses rentes, petit à petit se retrouve en difficulté et jusque dans le besoin. Au fond, Le Clézio a vraiment cette maîtrise de l'écriture et cet art du récit, et quand on rentre dans Ritournelle de la faim, on peut tout simplement plus s'arrêter. Et donc pour tous ceux qui, comme moi, c'était arrêté de lire Le Clézio, je vous invite à retourner au plus tôt vers Ritournelle de la faim et au fond à reprendre tous les livres que depuis lors on n'avait plus lu, on n'avait plus prêté attention. C'est peut-être la grande vertu des prix tels que le prix Nobel, de nous donner un coup d'éclairage sur une œuvre significative et nous inviter à aller la regarder de plus près, à lire et à le relire, Jean-Marie Gustave Le Clézio, et notamment ce dernier, Ritournelle de la faim, aux éditions Gallimard. Autre actualité littéraire, une actualité d'un grand personnage que là aussi on avait peut-être eu un peu trop tendance à oublier, George Orwell, le fameux auteur de 1984 et de La ferme des animaux. Et trop souvent on limite l'œuvre de George Orwell à ces deux textes. Or vient de paraître, ou d'être réédité à nouveau en français, une grande biographie de Bernard Crick aux éditions Flammarion qui s'appelle George Orwell, et un petit essai très percutant du philosophe Bruce Begou qui part de cette notion de la décence ordinaire, common decency, de George Orwell, et qui nous en donne toute la force et l'actualité. Alors d'abord quelques mots sur la biographie de George Orwell, écrite par Bernard Crick, véritablement un modèle de travail de biographe qui ne s'enferme pas et ne se complaît pas dans les détails, mais essaie de nous faire saisir toute la profondeur profondeur, la complexité, la formation de ce personnage, Eric Blair, dont le nom de plume est devenu George Orwell. Il raconte la formation de Orwell dans la public school et à Eton, une grande école anglaise dont Orwell a beaucoup souffert et dont il a cherché très longtemps à se défaire, notamment en s'engageant dans l'Empire en Birmanie comme policier, dont il tirera d'ailleurs une vision, une expérience très critique par rapport à la vie de l'Empire et à l'impérialisme britannique qu'il n'a pas ensuite cessé de dénoncer. À son retour, Orwell, qui se sentait quelque part coupable, lui, issu des classes moyennes ou supérieures de son expérience d'Eton, par rapport à la situation de pauvreté, d'extrême pauvreté qu'il avait pu croiser en Angleterre, il décide d'aller au plus près de ces milieux de la pauvreté et il écrit à ce moment-là un livre dans la Dèche à Paris et à Londres qui est le premier livre qui va faire connaître Orwell. Chemin faisant, donc ce rapport à la pauvreté et à l'état du monde amène Orwell à, je dirais, prendre conscience de son rôle en tant qu'écrivain politique, et il ne va pas cesser, au fond, dans le sillage d'un grand héritage de Swift, d'essayer de décrire le monde tel qu'il le découvre et de nous faire prendre conscience de l'état du monde. Il y a une véritable urgence dans l'écriture de Orwell qu'évidemment on trouve dans son hommage à la Catalogne, puisque Orwell fait partie de ces écrivains, de ces intellectuels qui sont allés en Espagne pour combattre, au moment de la guerre d'Espagne, pour combattre le fascisme espagnol. Et c'est sûrement un des moments déterminants dans la vie de George Orwell, puisqu'il s'engage plutôt du côté des anarchistes du PUM. Il sera à Barcelone au moment de la confrontation entre les anarchistes et les communistes staliniens de l'époque. Et George Orwell, au fond, découvre à sa grande surprise que le rêve communiste peut être une horreur, qu'il y a une manipulation des forces à cette époque, des forces à l'instigation de Staline. Et il y a une répression extrêmement forte contre les anarchistes, et Orwell arrivera à s'en sortir, à repartir en Angleterre. Mais c'est sûrement là l'expérience la plus, une des plus marquantes de sa vie. Et on y trouve sans doute la source de ces deux maîtres livres, en tout cas de ces livres les plus connus, de ces fables politiques que sont La ferme des animaux, puis 1984. Mais je ne voudrais pas revenir sur ces deux livres, mais plutôt sur, au fond, ce que George Orwell a à nous dire aujourd'hui sur la façon dont il pense le monde et de ce qu'il nous lègue dans le regard sur le monde qui peut nous faire sens aujourd'hui. Lui qui est très critique, notamment par rapport aux intellectuels, qui, dit-il, ont une mentalité plus totalitaire que les gens du commun. Ce qu'il y a dans le combat d'Orwell, c'est cette exigence de la vérité, et le combat qu'il a mené contre son propre camp, puisqu'il se disait socialiste, profondément engagé dans les milieux populaires. Il était chroniqueur dans beaucoup de journaux, très très engagé, et à cette époque, avant la guerre et juste après la guerre, il ne faisait pas bon être un critique du régime communiste soviétique, et il a subi beaucoup d'avanie, beaucoup de critiques très violentes, jusqu'à parfois repousser un certain nombre de ses articles et de ses livres. Mais il n'en a pas moins développé cette notion extrêmement forte de la décence ordinaire, qui est dont je vais vous donner un extrait tel qu'il a défini. Le paradis terrestre n'a jamais été réalisé, mais en tant qu'idée, il semble n'avoir jamais disparu, en dépit de la facilité avec laquelle il peut être discrédité par des politiciens de toute tendance. Cela confirme de façon sous-jacente qu'il est possible de s'appuyer sur la décence véritable de la nature humaine, capable d'un développement infini. On a là, avec cette idée de la common decency, de la décence ordinaire, une notion très, très forte, qui, au fond, comme l'explique Bruce Bégout dans ce magnifique petit livre de la décence ordinaire paru aux éditions Alia, qui est au fond une réponse, cette décence ordinaire, à l'indécence extraordinaire des dominants aujourd'hui. À la pensée de midi, nous avions réalisé un numéro sur le mépris, et au fond, la décence ordinaire peut être une très belle mode de prolongement de cette idée de l'indécence qui caractérise tellement notre temps. Bruce Bégout écrit ceci: la décence témoigne simplement de la faculté humaine d'éprouver le bien et de chercher à agir selon lui. Ce n'est pas du tout une forme de moralisme, ce n'est pas du tout une volonté d'imposer des catégories, non, c'est une exigence. Comme le souligne Bruce Bégout, d'une certaine manière, ce sens moral ne dit jamais ce qui est bien, il perçoit seulement la nocivité du mal et tente d'en prémunir ce qu'il éprouve. Et il ajoute: telle est pour Orwell l'unique raison d'espérer un avenir meilleur, car l'espoir ne se nourrit pas de belles théories sur les lendemains qui chantent, mais surtout de la capacité humaine de conserver son sens moral en toutes circonstances. Lui qui a été George Orwell, un des premiers critiques des régimes totalitaires et de la mystification qui a pu exister, on voit là ce que sa pensée peut encore nous dire aujourd'hui dans les combats de société, dans les combats politiques qui existent aujourd'hui. Orwell écrit ceci: lorsqu'on voit des hommes hautement instruits se montrer indifférents à l'oppression et à la persécution, on se demande ce qui est le plus méprisable, leur cynisme ou leur aveuglement. La pensée d'Orwell est particulièrement fertile car elle nous apprend à lutter contre le despotisme et à une vision réactionnaire du monde qu'il associe au fond au pessimisme. La pensée d'Orwell est une invitation à la puissance d'agir, qui est fondée sur l'exigence de la pensée et l'exactitude dans la langue. On se souvient que un des grands combats qui a été le sien, notamment dans 1984, c'est la dénonciation de ce qu'il appelait la novlangue des régimes totalitaires. On a bien vu cette langue de bois s'instaurer dans les régimes communistes, mais ce que tente de nous montrer Bruce Bégout dans son essai de la décence ordinaire, c'est qu'il y a une nouvelle langue de bois, une nouvelle novlangue qui s'est instillée dans nos sociétés dites démocratiques, et que cette langue-là est la langue de l'économie, de la finance, la langue qui a préparé ce désastre d'aujourd'hui du krach financier, qui commence à se fissurer, et on se rend compte que un nouvel Orwell serait bien nécessaire. Je cite Orwell: le langage politique a pour fonction de rendre le mensonge crédible et le meurtre respectable, et de donner à ce qui n'est que du vent une apparence de consistance. On a l'impression, au fond, à écouter Orwell, d'avoir un nouveau prophète pour notre temps, et la lecture et la relecture des œuvres d'Orwell est un bienfait salutaire, une façon de ne pas se détourner du monde tel qu'il va, mais d'essayer au contraire de le transformer face à les dérives auxquelles on peut assister de cette espèce de langue qui empaquette le réel, cet emballage du vide, comme le dit très bien Dominique Hédé dans un texte que nous publions dans La Pensée de Midi. Il y a là, dans ce travail de la langue et de la pensée, une façon de renouer avec l'espoir et peut-être avec la beauté du monde.
Bonjour, aujourd'hui pour cette partie musicale du Rendez-vous de Midi, nous prenons le chemin du jazz en vous présentant l'un de nos grands pianistes et compositeurs contemporains, Martial Solal. Thank you. Jean-Luc Godard, qui bouclait le tournage de son premier grand film, cherchait un musicien sans trop savoir à qui s'adresser. Melville lui a parlé de moi, je venais de gagner au loto sans le savoir. Personne ne pouvait deviner que À bout de souffle deviendrait un classique et ferait une si longue carrière qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée. Mes relations avec Jean-Luc Godard ont été très simples et très brèves. Projection du film partiellement monté, rencontre en salle de montage, choix et minutage des séquences à mettre en musique et de la date d'enregistrement. J'avais un petit mois pour tout écrire, la routine. Godard ne m'a pas donné d'orientation précise. Sa seule suggestion m'avait beaucoup amusée. Je ne savais pas vraiment s'il s'agissait d'humour ou d'un souhait réel. Peut-être qu'un seul instrument, un banjo. J'ai préféré comprendre qu'il me laissait libre d'organiser la musique à mon idée. En fait de banjo, je suis arrivée en studio quelques semaines plus tard avec un double effectif, un ensemble de jazz modulable du sextet au big band et un orchestre avec cordes et bois d'une trentaine de musiciens. Martial Solal, extrait de « Ma vie sur un tabouret », une autobiographie par Richet Actes Sud en cette année 2008. Martial Solal est né en 1927 à Alger. Alger la Blanche, qui a vu naître sa passion pour le jazz et dont les odeurs et saveurs l'ont profondément marqué, même s'il a quitté sa ville il y a bien longtemps. La lecture de cette autobiographie, récemment parue chez Actes Sud, donne envie de se replonger dans l'écoute des multiples enregistrements de ce maître de l'improvisation. Martial Solal a joué avec les plus grands, Kenny Clarke, Claude Bowling, Stan Getz, Daniel Humer, Astor Piazzolla, Stéphane Grappelli, et la liste est encore bien longue. Solal raconte avec une grande simplicité ce parcours riche qui l'a mené d'Alger à Paris, puis de Paris aux États-Unis, pays par excellence du jazz, où il aurait pu mener une carrière encore plus prestigieuse, mais qu'il a quitté pour des raisons familiales. En 1956, Jean Cocteau lui avait remis le prix Django Reinhardt de l'Académie du jazz, attribué au musicien français de l'année. En 1999, Martial Solal a reçu le Jasper Prize, qui est considéré comme le prix Nobel du jazz. On lit alors avec délectation comment son goût pour la musique a été le fruit d'un concours de circonstances entre hasard et destin. Je le cite. Si l'une de mes tantes n'avait pas eu pour voisin de palier le musicien de jazz d'Alger, Lucky Starway, je ne serais sûrement jamais devenu musicien. Bien sûr, j'aimais la musique, mais sans avoir aucune ambition d'en faire ma vie. Ma grande chance a été mon renvoi du lycée. En 1941, le gouvernement de Vichy avait décrété que la population juive d'Algérie ne pourrait plus continuer à bénéficier de la nationalité française accordée en 1870 par Adolphe Crémieux, alors ministre de la Justice. Vichy décida d'interdire aux Juifs certaines professions et d'instaurer un numerus clausus à l'école. Seuls ceux dont le père avait rendu des services éminents à la France, être mort aurait été bien vu, étaient admis à poursuivre leurs études. Par chance, mon père était bien vivant. Le décès au front de mon oncle ne fut pas pris en compte. Un seul mort pour la France était insuffisant. Mes parents m'ont alors inscrit dans une école privée. Mais les professeurs, promus sans doute dans l'urgence, ont rapidement transformé en presque cancre l'assez bon élève que j'étais. La pédagogie est sans doute un véritable art. J'ai sérieusement commencé à penser à la musique. J'ai d'abord séché quelques cours, puis carrément déserté. Les premiers temps, je me réfugiais chez ma fameuse tante, celle qui habitait rue Rossetti, en face de mon futur professeur de jazz. Elle jouait elle-même du piano sur un instrument hautement désaccordé. Mais il avait le mérite d'exister. Ma tante a rapidement vendu la mèche et j'ai dû avouer à mes parents que l'école ne m'intéressait plus et que ma vie serait la musique. Quelle inconscience! Je me demande encore aujourd'hui comment ils ont pu céder si facilement à un garçon de 15 ans. Marcel Solal, Ma vie sur un tabouret, une parution aux éditions Actes Sud, datant du mois de juin 2008.
Alors nous allons maintenant entendre un extrait de la conférence donnée par Alain de Libera, philosophe, médiéviste, conférence donnée à l'occasion de l'ouverture de la 15e édition des Rencontres d'Averroès à l'Alcazar le 16 octobre. Cette conférence s'inscrivait dans le cadre d'un réseau de recherche, le réseau Ramsès II, qui est un réseau de recherche en sciences humaines qui a pour vocation de constituer le domaine des études méditerranéennes. Alain de Libera, qui a été à l'origine des Rencontres d'Averroès lors de la publication de son livre « Penser au Moyen Âge » en 1991. Alain de Libera revient sur cette figure d'Averroès, revient sur les enjeux des grands héritages culturels et de la controverse très violente qui est née de la publication du livre « Aristote au Mont-Saint-Michel » de Sylvain Guggenheim, livre qui a amené des déclarations de plus en plus violentes, considérant que, et si l'Europe ne devait rien à l'héritage arabe, comme l'a titré le journal Le Monde, et tous les sites de ce que Alain de Libera appelle la réacosphère, qui se sont agités autour de tout ça. Donc le coup d'éclairage que nous propose Alain de Libera, plus historique et philosophique, nous permet de comprendre les grands enjeux qui se trament autour des héritages culturels, d'héritages grec et latin, bien sûr, d'Athènes et de Rome, mais de l'héritage judéo-arabe que l'Europe a tant de mal à accepter. Ce que montre Alain de Libera, c'est les grands enjeux, les filiations intellectuelles de cette conjonction des héritages et ce que ça peut représenter aujourd'hui dans le débat culturel et intellectuel. Une conférence à l'ouverture de la 15e édition des Rencontres d'Averroès, Alain de Libera.
La première session des Rencontres d'Averroès a eu lieu en 1994. Nous sommes en 2008. Bon, je ne vous ai pas rassemblé pour apprendre cette nouvelle de ma bouche, mais on pourrait craindre la juxtaposition de ces deux dates que je vous propose un bilan. Je ne le ferai évidemment pas. Je voudrais, pensant au traducteur que je salue au passage, je voudrais me demander avec vous ce qui s'est passé durant cette période. Alors, assurément, beaucoup de choses. Les attentats du 11 septembre, une deuxième guerre en Irak, mais aussi la conférence de Barcelone en 1995, le rejet du projet de constitution pour l'Europe, et enfin, Thierry insistait sur ce point il y a quelques instants, l'essor du thème, disons, pour employer un mot neutre, euro-méditerranéen. Les rencontres d'Averroès s'en sont trouvées enrichies, elles ont questionné et éclairé nombre de ces événements ou de leurs conséquences. Ce n'est pas sur ce point que j'interviendrai, mais sur la dimension qui a été celle et reste celle de mon travail de médiéviste. Je suis un spécialiste du Moyen-Âge, comme on dit. La place de la Méditerranée, ce que Thierry appelait, dans le titre d'une des manifestations, la Méditerranée des deux rives.
Reprise à Jacques Berck. Hein.
Oui. La place de la Méditerranée dans la réflexion sur l'identité européenne. Depuis la première édition des rencontres, beaucoup de bonnes choses, dont le projet était né à Marseille ou à Grenade, se sont produites. La plus remarquable à mes yeux a été la publication en édition de poche, dont l'une bilingue arabe-français, de textes d'Averroès. Le discours décisif sur la connexion, le rapport entre sagesse philosophique et loi religieuse, d'une part. D'autre part, une anthologie intitulée « L'islam et la raison », dont le titre a été repris dans une série d'autres publications, sans le dire, évidemment c'est toujours plus savoureux, comme dit le livre de la sagesse, les eaux furtives, au sens du vol, n'est-ce pas, volées sont les plus savoureuses, mais bon. L'islam et la raison, qui regroupait des textes philosophiques et théologiques d'Averroès, du grand penseur musulman. L'arrivée du discours décisif au programme des textes susceptibles d'être choisis au baccalauréat, à l'épreuve de philosophie. Une série de traductions françaises, des textes du même Averroès, mais en tant que commentateur d'Aristote, cette fois, et d'études historiques et philosophiques sur l'averroïsme et l'anti-averroïsme, deux courants qui ont structuré, au fond, une bonne partie de la pensée européenne du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle. D'autres choses se sont produites aussi, qu'on pourra juger, selon le point de vue, moins heureuses. Le thème de l'héritage andalou, qui était l'intitulé de la première rencontre, s'est vu rapidement contesté, prendre à partie, contesté comme simple mythe andalou. La Méditerranée a été dissociée de l'idée européenne, ici ou là, au point que une formule de Rémy Brague, dans un livre intitulé « Au moyen du Moyen-Âge », une formule de Rémy Brague a acquis quasiment valeur de slogan. Je vous la cite. « Non seulement l'Europe en tant que telle n'est pas méditerranéenne, mais elle est l'anti-méditerranée par excellence. » Au moyen du Moyen-Âge, page 241.
Pour nous qui sommes dans un réseau de recherche dédié aux études méditerranéennes,
oui, ça s'annonce mal.
Financé par la Commission européenne, c'est assez intéressant d'être dans cette tension-là.
Enfin, le fantasme d'une Europe devenue, tout le monde connaît le terme, Eurarabie, par le flux incontrôlé des migrations, comme on dit, est de plus en plus agité par certaines franges de l'opinion, tant en Europe que, évidemment, aux États-Unis d'Amérique. L'actualité éditoriale récente permet de revenir sur certains de ces points en philosophe, disons, et en historien de la philosophie, et c'est ce que j'aimerais faire ici. Vous l'aurez compris, d'autant plus que Thierry vient d'y faire allusion, je veux parler de la publication en mars dernier du livre de Sylvain Guggenheim intitulé « Aristote au Mont-Saint-Michel ». Je veux aussi parler du récent discours du pape Benoît XVI au Collège des Bernardins à Paris le 12 septembre 2008. Ces deux interventions ont un point commun, inattendu, mais un point commun. Elles proposent une certaine vision de l'Europe fondée sur un certain nombre de modèles, de paradigmes philosophiques, culturels et religieux qui nous invitent à nous interroger sur la possibilité même d'un dialogue entre Europe et Méditerranée. Alors, qu'est-ce que la Méditerranée pour un philosophe médiéviste, un médiéviste philosophe ? Évidemment, un lieu de rencontre de culture. Rencontre signifie échange, conflit, mélange. Pluralité d'échanges, pluralité de conflits, pluralité de mélanges. Cela signifie aussi pluralité de construction identitaire, c'est-à-dire de représentation de soi-même par rapport à un autre, voire à une pluralité d'autres. Rencontre signifie donc complexité. Rencontre ne signifie pas nécessairement dialogue. En tant qu'historien de la pensée médiévale, je me suis opposé à plusieurs reprises à la représentation de l'identité européenne donnée dans le livre de Henri Pirenne, historien belge, intitulé « Mahomet et Charlemagne », achevé dès 1935, mais publié après la Seconde Guerre mondiale. On peut, si vous voulez, à grands traits, résumer ainsi la thèse de Pirenne. Premièrement, l'invasion musulmane a mis fin à la tradition antique. Elle a jeté l'Europe dans ce qu'on a appelé le Moyen-Âge. Au moment même, dit Pirenne, où l'Europe allait enfin se byzantiniser, c'est-à-dire où la distinction entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident allait se résorber dans une même culture byzantine grecque. L'invasion musulmane a brisé l'unité horizontale du monde antique. La solidarité de l'Orient et de l'Occident chrétien, ou de l'Est et de l'Ouest, de ce qu'on appelait la romanitas, la romanité. L'islam a donc, par son irruption en Méditerranée, dans cette Méditerranée devenue, selon la belle formule mais contestable de Pirenne, un lac musulman, l'irruption de l'islam a entraîné le repli de l'Europe sur ses marges ou ses marches du nord septentrional, le développement de relations non plus horizontales puisqu'elles étaient interrompues, mais verticales et conflictuelles entre les nouveaux ensembles définis par la conquête. L'Europe égale l'Europe du nord, le reste, à savoir cette autre rive, qui n'est pas le rivage des Sirtes, et qui est la rive hostile, n'est-ce pas ? Par là, elle a déclenché, cette irruption de l'islam, l'essor de l'Europe germanique, au détriment de la partie romaine, la partie romaine étant coupée de l'Orient, étant progressivement refoulée vers le nord. En somme, c'est parce que l'islam a arraché l'Orient chrétien à l'Occident chrétien, que le Nord a pris décisivement le pas sur le Sud. Voilà la thèse de Pirenne. En une phrase, le résultat, je cite, le résultat de la conquête arabe, c'est que l'axe de la civilisation a basculé. D'horizontal, il est devenu vertical.
C'est d'ailleurs la thèse qu'on va débattre à la première table ronde cette année des Rencontres d'Heureux, la thèse de Pirenne sur Mahomet et Charlemagne. Donc, beau prélude.
Cette vision des choses est une partie du non-dit de la question de l'entrée de la Turquie et de la présence de l'islam en Europe, bien entendu. Alors, on peut s'opposer à la thèse de Pirenne. Je l'ai fait à plusieurs reprises, disais-je, mais comment ? Eh bien, en rappelant que la division Est-Ouest en Méditerranée, Est-Ouest, concernait trois ensembles politiques et ou religieux. Bien sûr, celui de la Romanité, la Romanitas, l'Imperium Romanum, il y avait deux empereurs. Un temps, la christianitas, la chrétienté, le monde chrétien, et l'islam lui-même, sans parler du judaïsme. L'islam n'a pas produit les deux premières divisions, entre les deux empires et entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident. Il y est totalement étranger. J'ai également tenté de montrer contre Pyrène qu'à partir du XIIe siècle, l'Occident latin s'était philosophiquement acculturé, c'est-à-dire avait acquis une nouvelle culture, une culture philosophique, au contact de la pensée musulmane andalouse, qu'il avait renoué avec Athènes, la lointaine Athènes, grâce à une suite de transferts culturels de l'Orient musulman à l'Occident chrétien, que l'on peut décrire en reprenant une expression latine médiévale comme une translatio studiorum, c'est-à-dire littéralement transfert, translation, déplacement, des voyages, des études. J'ai soutenu en ce sens que c'était une translation intérieure à la terre d'Islam, liée à la conquête musulmane, qui avait rendu possible le retour de la science et de la philosophie grecque dans le monde latin. J'ai souhaité employer ce terme latin de translation des études, translatio studiorum, ou de translation des arts, transfert des arts, translatio artium, plutôt que transfert culturel que tout le monde utilise maintenant, parce que l'idée de translation des études ou des arts d'Athènes à Rome, puis de Rome à Aix-la-Chapelle, à l'époque des Carolingiens, plus tard à Paris, évidemment associée à celle de transfert des lieux de pouvoir de l'Empire, translatio imperii, a été un puissant outil de propagande occidentale chrétienne ou de propagande occidentale chrétienne à l'époque précisément carolingienne, à l'époque de Charlemagne. Puis un outil de propagande du royaume de France quand précisément s'est imposé à l'époque de Charles VI l'idée d'un axe Athènes-Rome-Paris. Athènes-Rome-Paris, les trois capitales successives de la culture. Cette présentation des choses est une des figures de la complexité que j'évoquais en commençant. Le mot translatio, le mot latin translatio, signifie aussi traduction, translation. Le transfert culturel, si l'on tient à ce terme, est aussi et d'abord mouvement traducteur, appropriation d'un corpus de textes sources, de textes canoniques. La première figure du dialogue culturel est celle de la traduction, et la deuxième est celle de la lecture. Tous ceux qui ont publié des livres savent que le moment de la lecture par un public fait partie de l'existence même du livre, n'est-ce pas ? Donc, première figure du dialogue, la traduction. Deuxième figure du dialogue, la lecture. Traduction, lecture. Cela ne fait évidemment pas un dialogue au sens courant du terme. Le dialogue se fait ici avec des absents. Il est tradition, transmission, droit de vote accordé aux morts par les vivants, selon la belle formule de Chesterton. Droit de vote accordé aux morts par les vivants. La Méditerranée a été durant des siècles le théâtre et le vecteur de ce mouvement complexe d'acculturation successive à l'intérieur du monde romain d'abord, durant cette période aux limites assez indécises que couvrent les appellations d'antiquité tardive et de haut Moyen Âge. On ne sait pas toujours exactement où passe la limite entre les deux. Disons, pour ce qui concerne la philosophie, point de départ, la fermeture de la dernière école philosophique païenne en terre chrétienne, l'école néoplatonicienne d'Athènes, par l'empereur chrétien Justinien en 529. C'est en 529 que la philosophie païenne a cessé d'avoir une institution scolaire dans ce monde qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Et ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée de cette première période, eh bien, ce serait les traductions d'Aristote effectuées dans la seconde moitié du XIIe siècle. Donc, du VIe au XIIe siècle, on a cette période. Antiquité tardive au Moyen Âge. C'est un âge de la pensée, donc ouvert par des traductions. Les traductions d'un consul des Romains, Boès, à l'époque des Goths, de l'empereur Théodoric, 6e siècle, traduction de Boès faite du grec au latin, à une époque où la philosophie païenne de langue grecque est encore vivante, Et cet âge de la pensée, disons, est ponctué, je ne dis pas qu'il est clos, parce que cela continue autrement après, il est ponctué par les traductions de Jacques de Venise et de Burgundio de Pise, deux Italiens, dans les années 1140-1150, à une époque précisément où la philosophie païenne n'existe plus. Dans l'histoire du transfert, du trajet, donc des trajets, c'est l'âge que l'on peut appeler gréco-latin de l'Europe et de la Méditerranée, de Byzance à l'Italie et de là vers le nord. Mais il y a un second âge, une fois l'islam établi dans la péninsule ibérique. C'est celui, pour simplifier, des traductions faites à Tolède, les fameuses traductions tolédanes, de l'arabe au latin, parfois avec l'intermédiaire du castillan. Donc imaginez, arabe, castillan, latin. Traducteur de l'arabe au castillan étant souvent, pas toujours, un juif, et du castillan au latin, un chrétien. Souvent, pas toujours. Bon, ces traductions ont été le fruit d'une politique culturelle menée par l'archevêque de Tolède, une fois la ville reprise aux musulmans, une politique d'appropriation culturelle active des sources grecques, arabo-musulmanes et juives. Elle a commencé dans les années 1160 et on peut dire, sans exagération, qu'elle se confond avec l'essor, l'histoire irrésistible des universités médiévales, dont l'Université de Paris, créée en 1200. Deux âges donc, dans le Moyen-Âge philosophique, que, faute d'un meilleur mot, j'appellerais occidental latin. L'avantage du terme occidental étant évidemment, soit dit au passage, qu'il s'applique aussi bien à l'islam, l'islam occidental de Cordoue, qu'au monde latin. Deux âges, donc, dans notre Moyen-Âge, deux âges au moins, deux âges originels, celui de la relève de Byzance par l'Empire carolingien, mouvement interne à la romanité et à la christianité, celui où naît l'idée de transfert des arts, puis l'âge des universités. Cet âge des universités, de 1200 à 1700 à peu près, où la réception de l'ensemble des textes d'Aristote, des corpus d'Al-Farabi, d'Avicenne, d'Averroès, pour m'en tenir aux figures philosophiques les plus notoires, où la réception donc de cet ensemble de textes détermine la naissance d'un mode nouveau de production des savoirs, qui est lié à la fois à l'exégèse, autrement dit au commentaire, à la culture du commentaire, lire des textes, commenter des textes, et à la dispute, ce qu'on appelait la dispute au Moyen-Âge, autrement dit la discussion argumentée, et donc une autre forme de la culture supérieure, la culture de l'argument, dont ces deux modes de culture, disons, ces deux figures de la culture, ont été longtemps et sont peut-être encore des figures dont nous sommes les débiteurs. Lecture, discussion. Le mouvement d'appropriation que je viens de décrire sommairement a configuré l'Europe à partir de la Méditerranée. Il lui a donné sa forme initiale. Il y a eu d'autres appropriations. Évidemment, le transfert des études s'est aussi effectué dans les mondes musulmans d'Orient et d'Occident. Partant des écoles d'Athènes et d'Alexandrie, vers Damas et Bagdad, selon des modalités et des étapes elles-mêmes complexes, inaugurées en partie par l'exil en Perse en 529 des six derniers philosophes d'Athènes à la cour du souverain perse. C'est le point de départ des voyages de la philosophie en Orient. Bon, on le sait et le dit depuis longtemps, les Syriaques, surtout des chrétiens, il y avait des gens de langue syriaque qui étaient aussi des païens, à l'époque musulmane, encore au IXe siècle de l'ère chrétienne, ont joué un rôle capital dans ce que l'on appelle parfois la culturation philosophique des Arabes. Les horloges culturelles ne sont pas nécessairement synchrones. L'apogée du mouvement traducteur en terre d'islam se situe au IXe siècle de l'ère chrétienne. dans l'islam d'Orient, non pas au XIIe et au début du XIIIe, comme dans le monde latin chrétien. Les corpus appropriés par les uns et les autres ne sont pas nécessairement non plus identiques. L'Orient musulman a gardé un accès plus large aux grands textes philosophiques néo-platoniciens, par exemple ceux de Plotin ou de Proclus, qui n'ont été redécouverts par les latins qu'à la Renaissance.
Vous venez d'écouter les premiers éléments de la conférence d'Alain de Libera, philosophe médiéviste, lors de cette rencontre du réseau Ramsès II à l'Alcazar le 16 octobre. Et Alain de Libera, qui a évoqué le transfert des études, évoque pour conclure la figure d'Averroès.
Juste un mot pour terminer autour de la figure d'Averroès dans géographie philosophique et mentale qui a été décrite très, très fortement dans votre intervention.
Je dois dire que peut-être le succès des rencontres d'Averroès explique certaines réactions épidermiques à l'égard d'Averroès. Un mot pour vous montrer comment se situe la polémique maintenant, à l'heure actuelle. Ceux qui ne peuvent pas dénier à Averroès le statut d'une des grandes figures arabes et musulmanes de l'histoire de la rationalité universelle. Eh bien, que font-ils? Ils le présentent dans une section de leur livre intitulée « Au bon beurre ».
Au quoi?
Au bon beurre, B-E-U-R. Alors évidemment, il faut un décodeur Canal Plus pour saisir. Alors il y a bien sûr Au bon beurre, le roman BEU 2RE de Jean Dutour, une des grandes figures de l'intelligence française. Un roman consacré aux collabos, au BOF, beurre, fromage, bon, etc. Et puis le beurre, B-E-U-R. Bon, alors effectivement, Averroès est aujourd'hui le bon beurre, le beurre sympa. Celui qu'on aimerait fréquenter, qu'on donnerait à sa fille en mariage, bon, etc. Donc, vous vous rendez compte? Donc, alors, a-t-il mérité cela? Bon, l'argument est simple, c'est, vous me citez toujours Averroès, il n'y a que lui. Citez-moi un autre philosophe venu de terre d'islam, qui soit sur des positions rationalistes. Bon, alors, on ne va pas le faire ici, mais tu me demandais ce qu'on peut retenir d'Averroès. Je dirais la critique philosophique la plus radicale, la plus courageuse, après tout, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de gens, peut-être pas la plus efficace, si on regarde ça sur la longue durée, du pouvoir des théologiens dans une société musulmane. Une idée d'Averroès, très simple, fondée sur Aristote, puisqu'on a parlé d'Aristote. Il y a trois sortes de raisonnements. Les raisonnements rhétoriques, les raisonnements dialectiques et les raisonnements démonstratifs. Le raisonnement rhétorique essaie de persuader par le maniement d'images poétiques, le cas échéant. Le raisonnement dialectique doit vous convaincre par des arguments dont les prémices, c'est-à-dire les bases, les fondements, les propositions dont on part, sont seulement probables ou admises par le plus grand nombre. Et puis il y a le raisonnement démonstratif, dont le point de départ est précisément un certain nombre de est constitué par des thèses qui ont déjà été démontrées. Donc, rhétorique, dialectique, science. Averroès dit, eh bien, à ces trois sortes de raisonnements correspondent des types d'esprit. Il y en a trois dans la société contemporaine, la sienne. Ceux qui croient en étant persuadés qui peuvent se contenter au fond du sens littéral du Coran. Si riche en images soit-il. Il y a ceux qui sont hommes de science et qui sont à même de comprendre que le Coran interprété philosophiquement n'est pas en contradiction avec des thèses démontrer scientifiquement, car le vrai ne peut pas contredire le vrai. Donc, s'il y a une contradiction apparente entre un passage du Coran et une thèse scientifique, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, la question s'est posée en Occident chrétien, on interdit la thèse scientifique. Averroès répond, on interprète le Coran de manière à le rendre compatible avec la thèse en question. Et puis, il y a la dialectique. Il y a un type d'homme qui se sert de son aisance dans le raisonnement, en s'appuyant toujours sur des prémices probables ou admises par le plus grand nombre ou sur l'autorité, etc., qui est incapable de démontrer quoi que ce soit, mais qui affecte de le faire. Et ceux-là, ce sont les théologiens. Donc une société idéale, ce serait une société où il y aurait ceux qui, pour croire, n'ont pas besoin de tout comprendre, et ceux pour qui comprendre n'est pas incompatible avec croire. Et au milieu, vous auriez ceux, et vous avez ceux, qui croient tout comprendre, et qui se mêlent de tout. Ceux qui ont déchiré les Écritures, dit-il, précipité les musulmans dans la haine et les l'exécration mutuelle, et étaient source de guerre permanente, je cite, bon, les théologiens. Donc, alors voilà, ça a une certaine pertinence actualité ou impertinence. Bon, et après, il faut réfléchir sur tout ça, évidemment, et la thèse n'est peut-être pas défendable telle qu'elle. Bon, elle peut être critiquée de bien des façons. Mais alors, ça ne veut pas dire que Averroès est un homme des Lumières. Ça veut dire que c'est un aristotélicien rigoureux et radical qui ne voit pas d'incompatibilité entre la philosophie démonstrative la plus rigoureuse et la méditation du sens du texte précieux ou du texte révélé, comme il dit.
Pour terminer cette émission, l'annonce d'un colloque les 14 et 15 novembre prochains à Aix-en-Provence, la croyance dans tous ses états. Sous l'égide de l'Observatoire du religieux, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et sous la direction de Raphaël Liogier, professeur à l'IEP et l'Université de Sydney. Plusieurs thématiques seront présentées, sens, contresens et essence de la croyance, les croyances aux frontières de la religion, les nouvelles politiques croyantes, les nouvelles cultures croyantes, causes et effets matériels de la croissance aujourd'hui. Les 14 et 15 novembre prochains à Aix-en-Provence, pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ou le blog de La Pensée Midi.